Des livres plein les oreilles. Bonjour, comment allez-vous, Clotilde Seille, en votre compagnie ce midi encore pour vous présenter l'émission des livres plein les oreilles et l'occasion ou jamais de vous présenter plein de titres et peut-être des auteurs que vous connaissez un peu moins que d'autres. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec Louise Boulanger au sujet du livre d'Alain Dubuc, Maudit hiver. Je vais aussi en seconde partie m'entretenir avec Réjeanne Bouger, présidente de l'UNEC au sujet de La Nuit Blanche, qui sera présenté dans le cadre de Montréal, février, comment on appelle ça, Montréal en lumière, voilà, j'ai failli ne pas l'avoir. Il y aura aussi une chronique de Yannick Olassa avec un livre de Frédéric Beigbeder. Et puis, la semaine prochaine, je vous annoncerai Catherine Lalonde. Il y aura des nouveautés en rafale. Et en première partie de cette émission, j'ai la joie, oui, vraiment, d'accueillir quelqu'un dont j'ai adoré le livre. Je peux déjà le saluer parce qu'il est en studio. Il s'appelle Akos Verbocci. Bonjour Akos.
Enchanté. D'être ici.
Alors, Akos, nous allons d'abord écouter ensemble ce qu'a à nous dire Louise Boulanger et tout de suite après, je me retourne vers vous.
Au plaisir.
Bonjour, chère Louise.
Clotilde, jaillit l'hiver, maudit hiver, les deux pigés, les mains jartées, la batterie à terre. Jaillit l'hiver, même s'il y a des finales jusqu'au mois de mai. Bonjour, Clotilde.
C'est bon, excellent préambule. Je suis tellement contente que vous ayez choisi.
On va laisser faire pour le restant de la chanson.
On va laisser faire, comme vous dites. Alors, vous savez qu'au moment où sera diffusée cette émission-là, on sera deux semaines plus tard. Hein. Alors, je ne sais pas à quoi ça ressemblera cette journée-là. Mais là, aujourd'hui, au moment où on l'enregistre, alors on a eu toute une nuit épique avec verglas, brouillard, neige et compagnie. Une bonne raison de plus pour détester l'hiver, comme l'écrit Alain Dubuc, « Maudit hiver ».
Eh oui, ça me semble qu'on n'a pas le choix, il faut vivre avec, mais il fait beaucoup parler les gens. D'ailleurs, on dit souvent aux gens qui viennent des pays de l'extérieur, des réfugiés, on leur explique... que les gens, quand ils se rencontrent ici, il y a certains pays où on va pour s'introduire, on va dire « comment va ta santé ?» Mais ici, ça va être la température.
Oui, c'est vrai. Cela étant dit, Louise, je pensais encore tout à l'heure en venant et en marchant sur la glace, cramponnée, parce que je ne suis pas complètement idiote, et maintenant je mets des crampons, mais je pensais aux personnes non-voyantes, c'est quand même pas une sinécure. Déjà,
ben, hein? C'est sûr que l'hiver, ben ici, nous, on l'a eu plus neige que vers là, mm-hmm. par rapport à Montréal. Moi, je suis à Québec, là. Mais c'est sûr, l'hiver, quand t'as un problème de vision, t'attends l'autobus au coin d'une rue, tu peux même pas l'attendre dans l'abribus parce que tu verras pas le numéro parmi les 15 qui passent, là.
Ah oui.
C'est pas toujours évident.
Non, c'est clair. En tout cas, moi, j'ai une pensée régulièrement. Pour vous, Louise, et tous les gens qui vivent avec une déficience visuelle. Alors aujourd'hui, vous nous parlez donc de ce livre d'Alain Dubuc que l'on connaît comme chroniqueur à la presse.
Oui, disons que M. Dubuc a décidé d'écrire un livre qui se défoulait sur l'hiver. Parce que, dans le fond, pour lui, depuis la Révolution tranquille, quand les Québécois sont tombés dans la modernité, ils ont laissé l'hiver de côté pour s'urbaniser, pour se tourner vers le sud. Parce qu'il dit, dans le fond, le Québec est à peu près à la hauteur de Bordeaux. Et de Lyon. Dans le fond, mais on n'a pas le réchauffement du Gulf Stream. Puis il dit, on n'est pas des vrais Nordiques comme les Scandinaves, parce que ces gens-là, physiquement, sont situés en haut de notre nord, ici, qui est la baie James. Et puis, ils ont un climat moins extrême que nous, des hivers moins froids, mais ils n'ont pas les plaisirs des chaleurs de 25-26 l'été. Nous, on s'est fait chauffer la couenne au soleil pendant quelques mois. Quand l'hiver arrive, ils sont contre ça d'eux.
Oui, mais en plus, eux, par contre, ils ont les journées courtes, hein?
Oui, nous autres, c'est ça l'avantage.
Ici, quand
on a
même,
quand même une certaine période de soleil là, que ces gens-là n'ont pas. Fait qu'Alain Dubuc dit que, dans le fond, surtout avec l'intégration continentale, de plus en plus, on laisse de côté l'hiver. Puis les Québécois se retournent vers le soleil, juste à voir les aménagements paysagers, les piscines dans nos cours, les patios. C'est comme l'hiver, si c'était un mal nécessaire à passer.
Mais ôtez-moi d'un doute, parce que bon, j'ai eu l'occasion assez récemment d'aller passer des fins de semaine en région, pas si éloignée que ça, Lanaudière, Laurentides, Estrie et tout ça. Et je n'ai pas retrouvé ce côté-là, j'ai eu l'hiver, j'ai vu, allez hop, on s'habille, on habille les mômes, on sort les patins, on met les skis de fond, on sort les raquettes, et on jouit de l'hiver, littéralement.
Oh oui, c'est
un truc urbain, non?
On n'a pas le choix de vivre avec, mais que quand on vit dans les grands centres, ça devient un peu plus compliqué en termes d'habillement, de coûts économiques, d'entretien extérieur, du coût de construction de maison. C'est sûr que l'hiver a quand même ses charmes, là, et curieusement, j'ai l'impression que de plus en plus, avec le réchauffement climatique, on va s'ennuyer de nos hivers, parce que des pluies verglaçantes aux 2 semaines, comme on en a là. On n'avait pas ça avant, quand j'étais jeune, on n'avait pas ça. On avait de la neige, même à Montréal, tu avais de la neige vers... moi, je me souviens, parce que c'était l'anniversaire de ma mère, mais vers le 8-9 novembre, tu avais tes premières neiges à Montréal, puis tu avais de la neige jusqu'au printemps. Les expos commençaient à jouer au Parc Jory et... il y avait encore de la neige.
Il y avait encore de la neige. Mais je ne sais pas, c'est peut-être aussi la ville qui devrait un petit peu plus s'acclimater au changement climatique.
En partie aussi, là, mais... de plus en plus, on a des verglas, de la grêle, du grésil, des choses qu'on pouvait avoir une fois dans l'hiver avant. Là, c'est rendu que c'est ça régulier. Tu essaies d'aller marcher, tu manques de te casser la gueule. l'entretien. Ici, notre mère nous avait dit cet hiver que ce serait merveilleux, mais il semble que c'est pas merveilleux.
Oui, non, effectivement. Mais en même temps, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Hein, vous me connaissez, j'aime bien me faire l'avocat du diable. Mais je me souviens quand le premier Noël auquel j'ai assisté ici, ça devait être en, je ne sais plus, 83 peut-être, 82, 83. Et je m'en souviens bien parce que je pense que c'est la dernière fois que je suis allée à la messe de minuit. Et il était tombé tellement de verglas pendant la messe que c'était tellement patinoire qu'on était plusieurs à se mettre à genoux pour sortir. Autrement dit, je ne me suis pas mise à genoux pendant la messe, mais en sortant, oui, parce que là, notamment les personnes âgées, évidemment, les gens qui n'étaient pas de souche, qui ne marchent pas sur la glace parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Alors, je me souviens très bien que je suis allée à la voiture à quatre pattes. Voilà. Et c'était 82-83, finalement. Il y a toujours eu des moments comme ça.
Ça arrivait, mais quand même moins.
Vous trouvez-vous? Vous souvenez-vous quand, en 87, il a fait tellement chaud qu'on a eu cette espèce d'énorme déluge, là, qui avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui avait coupé littéralement la ville en deux.
Moi, je n'étais pas à Montréal. Je suis partie à Montréal en 80. Mais ça, celui de 81-82, je crois que je m'en souviens.
Bon.
Je me souviens d'une fois aussi qu'il y avait... une veille de Noël, la température dans une soirée... Ben c'est ça, Alain Dubuc, il dit le problème ici, c'est beaucoup nos extrêmes de température. Moi,
oui,
je me souviens cette fois-là où la veille de Noël, on marchait à Montréal dans 2 pieds de slotch et dans la nuit, il devait faire moins 30, tout a figé là.
Exactement.
Fait qu'il dit, c'est pour ça ici qu'on est moins porté à faire comme les Scandinaves, à aller s'asseoir dehors avec une petite bière sur une terrasse quand il fait moins 20 avec le vent, là. C'est moins tentant.
C'est moins tentant, mais je suis sûre qu'on pourrait passer quand même quelques bons moments. Moi, j'ai l'impression qu'on chiale beaucoup sur la météo.
Oh, oui, mais c'est un sport, ça. Ça défoule.
Ça, c'est un sport national.
Ça nous occupe. Ça nous défoule.
Mais est-ce qu'il nous apprend des choses qu'on ignore, M. Dubuc, dans ce livre-là, Louise Boulanger?
Ben, dans le fond, je crois qu'il y a raison sur la base qu'on vit moins en fonction de l'hiver que nos ancêtres le faisaient quand on vivait dans une société plus agricole.
Oui.
Puis malgré tout, économiquement, c'est peut-être pas si nuisible qu'on pourrait le penser, parce qu'on a des industries adaptées en conséquence. Mais c'est sûr que, bon, ici, l'hiver, les légumes, c'est un peu de local, mais... dans le fond, ça, même.
Oui, mais on se contentait de ce qu'on avait.
Je pense pas qu'un jour, on fasse pousser des tomates au mois de janvier, là, sur notre balcon, là.
Non, non.
Si ça arrive un jour, je pense que ça prend un bout quand même, malgré tout.
Oui, en tout cas, moi, je serais plus là pour le voir, je pense pas.
Ni moi, je crois pas,
là. Bon, en tout cas, c'est un. Vous êtes amusé en lisant ce livre? Vous vous êtes agacé? Vous vous êtes instruite?
Amusé. Il y a quand même des choses. je dirais, tu sais, quand il nous dit, dans le fond, quand on y pense, c'est vrai qu'on est à hauteur de Lyon puis Bordeaux. Comment j'ai réalisé, comment notre nord par rapport aux pays scandinaves n'est pas si au nord que ça? Parce que Dubuc, il dit, ça a pris bien même des années, mais nos ancêtres sont arrivés à Québec en 16, puis ont fondé Québec en 1608, mais le Saguenay, qui est quand même pas si au nord, ça a pris 1850 à peu près. La région de l'Abitibi, il s'est colonisé avec les mines de là 100 ans. On ne s'est jamais vraiment tourné vers le nord. Puis aller dans le très grand nord du Canada, puis aller en Floride, c'est à peu près la même distance.
Oui, et c'est encore vrai maintenant. Hein. Au nord de cette île, là, les gens s'en plaignent encore d'être complètement abandonnés, notamment par le gouvernement. Et...
Nos pays sont très, très peu tournés vers le nord. Ce qui m'a surpris beaucoup, c'est quand tu as dit les proportions de gens qui allaient vers le sud l'hiver, c'est à peu près le tiers de la population. C'est quand même pas négligeable. Là.
Non, c'est sûr.
Donc, personnellement, je vis sans aller dans le sud. Je suis déjà allée, là. Mais il y a des gens, mon Dieu, s'ils ne vivent pas dans le sud, ils ne passeront pas l'hiver, là. Moi, je le passe malgré tout, là.
Eh bien, bravo, Louise. Vous êtes une fière Québécoise.
Et on n'a pas le choix, comme il disait, continuons le combat.
Continuons le combat. Louise Boulanger, c'est toujours un plaisir de vous entendre. Et puis, bravo pour votre petite introduction. Vous m'avez bien fait rire et je suis sûre que les auditeurs acquiescent.
Oui, donc, comme mon mari dit, je ne ferai pas Star Academy.
Mais pourquoi pas? Vous allez faire The Voice, comme disent les Français.
C'est ça, ben à la prochaine.
Allez, à la prochaine, Louise, et je vous offre un petit refrain bien connu qui va faire un lien parfait.
Mon Dieu, moi, tu...
Comment vous dites?
Non, c'est parce que j'avais été me caser dans un endroit à cause du bruit, puis là, on est en train de m'embarrer.
Ah, ben, ça y est, c'est beau?
Non, là, je suis correct, là.
OK.
Mon Dieu, je sais même pas ce qu'ils m'ont fait sortir.
Non. Parce que sinon, on serait resté avec vous, là. J'aurais attendu. Bon, c'est parfait. OK, Louise. Alors, je vous disais qu'un petit refrain pour vous. D'accord. Merci, bonne journée. Alors, on va l'écouter, ce petit refrain qui va faire le lien avec Akos Verbatchi.
Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver.
On m'a souvent dit, même trop souvent, que je suis le parfait immigrant, l'enfant idéal de la loi 101, tel que même René Lévesque et Camille Lorrain n'ont osé le rêver. Ça me gêne sur 2-3 points, mais surtout parce que je ne veux pas qu'on se serve de moi pour dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, entre parenthèses, car n'est-ce pas qu'il est génial ce petit Hongrois? C'est de vous, Akos Verbatchi. Bonjour, je suis ravie de vous accueillir. J'ai choisi cette citation qu'on trouve en page 221 de votre livre pour l'ouvrir parce que je trouvais ça tellement charmant.
Mais vous faites bien de commencer avec ça parce que souvent, je me fais dire ça, que... Oui. Vous êtes donc bien un immigrant qui est bien intégré. Vous
oui.
êtes Québécois comme tout le monde.
Oui, oui.
Puis il y a d'autres... Parce que vous dites pas... Vous n'avez pas continué le passage où je dis qu'une deuxième raison aussi pour laquelle j'aime pas qu'on prenne mon exemple, c'est parce que je veux pas qu'on dise qu'un immigrant en deçà de mon intégration, de mon niveau d'intégration, qui ne connaît pas Jules Vignon, justement, qui n'est pas intégré, qui n'est pas québécois, etc.
Non, non, bien sûr. Oui, mais vous savez, très honnêtement, j'ai tellement aimé votre bouquin que je pourrais vous citer à toutes les pages. Parlons-en, tiens, tout de suite, puisqu'on l'a écouté Vignon et que vous en parlez. À un moment donné, là, on est très loin. On va revenir au début après. Hein. Je n'ai pas commencé par le commencement.
Je suis.
J'ai commencé par la fin. Vous avez un chapitre qui s'appelle « Mon pays » parce qu'à un moment donné, vous avez vous-même donné des cours. Vous étiez bénévole aux ateliers de conversation française gratuits pour les adultes non francophones.
C'est ça. Ouais.
Et là, vous écrivez « Dans mes cours, je distribuais le texte d'une chanson québécoise. On déchiffrait les mots et les expressions. On parlait des thèmes, on partageait nos expériences. Et enfin, je mettais le CD et mes élèves pouvaient découvrir notre chanson pour la première fois. » Tune d'automne, des cow-boys fringants, l'étranger de Pauline Julien, I Lost My Baby de Jean Leloup furent des succès pédagogiques mémorables. Au dernier cours, écrivez-vous, je finissais toujours par Gilles Vigneault. Quand on l'écoutait, j'avais l'impression d'être, pour une fois, utile à l'intégration des immigrants au Québec. Parce que sinon, c'est très inutile.
Non, le... mais... Non? C'est mon dernier chapitre.
Oui.
Où par l'anecdote que je commence ainsi, je fais un peu le bilan de mon parcours.
De votre parcours, oui.
À partir du moment où j'arrive ici, à la veille de mes 11 ans.
Mm. On va y revenir.
Et les 30 années qui ont suivi.
Qui ont suivi, oui.
Je trouve aussi que malgré tout, parce que je parle beaucoup des politiques d'immigration, des politiques d'intégration, du système scolaire, etc. J'ai voulu faire beaucoup de choses. J'étais impliqué pour la cause du français, pour l'immigration, pour l'école. Mais je pense quand même que c'est quand on est en interaction avec quelqu'un, avec un nouveau arrivant, puis qu'on lui parle du Québec, puis qu'on lui l'introduit à ce qui fait l'originalité du Québec, que c'est à ce moment-là que véritablement je sens que je suis utile à l'intégration des immigrants. Sûr.
Alors, vous savez, les meilleures conclusions font les meilleures introductions, et c'est peut-être pour ça aussi que j'avais choisi de commencer par la fin, mais je voudrais qu'on remonte au début. Donc, vous avez à peine 11 ans, vous nous l'avez dit, et ben, vous choisissez maman qui est tombée, vous choisissez de suivre maman, de toute façon, on n'avait pas le choix, 11 ans. Maman est tombée en amour.
Et croyez-moi que j'avais pas le choix.
maman est tombée en amour, donc. Et alors, on quitte la Hongrie natale, on quitte les amis, on quitte les habitudes, on quitte la grand-mère. C'est tellement joli, le passage où votre grand-mère vous dit au revoir et vous salue. Ça me tirait les larmes quasiment. Et donc, vous suivez la famille. Moment quoi ? Difficile ? Moment... on a peur ? On est...
Déchiré entre deux sentiments. Je suis un petit garçon qui est attiré par l'Amérique. Nous sommes en 1986. La Hongrie est dans le bloc de l'Est. Peu importe ce que la propagande dit, au fond de nous, on sait que c'est mieux en Amérique qu'en Hongrie. Alors, je suis déchiré par cette envie, ce désir de découvrir, d'avoir accès à tout ce qui est à l'Ouest et peut-être pouvoir me vanter dans les lettres à mes copains. Mais en même temps, je suis extrêmement triste de devoir quitter mes amis, ma grand-mère, comme vous dites, mon père, qui n'était pas un père très présent dans ma vie, mais c'était quand même mon père, puis... que j'aimais beaucoup. Et donc, c'est un double sentiment. Là, Et aussi, je suis dans un contexte où je n'avais pas vraiment le... Évidemment, je n'ai pas le choix de suivre, mais je n'avais pas non plus le choix de ne pas être content de ce que vie m'offrait.
Oui, c'est ça.
Dans ma culture, dans ma famille, on ne se plaignait pas la bouche pleine. On ne faisait pas... On jouait pas à l'enfant gâté.
Non, non.
Donc, tous ces sentiments-là, en écrivant le livre, ils sont revenus. Je me suis... en voulant raconter mon récit d'immigration... j'ai dû faire face à ces déchirements de mon enfance. Mais surtout, j'ai rapidement réalisé que c'est l'immigration de ma mère que je raconte et pas tant la mienne.
Oui.
C'est quand même ma mère qui a décidé de venir ici et pas moi. Et c'est sa démarche et c'est dans sa vie privée que je suis rentré en commençant
Et l'image de l'épilation, ça m'a tellement fait rire. Alors là, les gens se demandent de quoi je parle. C'est parce que, bon, évidemment, il y a beaucoup de l'écrivain là-dedans, mais quand même, tout d'un coup, d'apprendre qu'épiler une paire de jambes, ça rapportait 20 piastres.
Ma mère est esthéticienne.
Oui.
Et dans un chapitre intitulé « Les rêves de ma mère », je dis que ma mère a décidé d'émigrer au Canada quand elle a appris le prix d'une épilation.
Voilà. Voulez-vous que je le lise, si vous le permettez?
Allez-y.
Je vous le dis, ma mère a décidé d'émigrer en apprenant qu'à Montréal, les femmes étaient prêtes à débourser une somme astronomique pour se faire couler de la cire brûlante sur les jambes avant de se faire arracher les poils d'un geste brutal. Tout est là.
Et c'est pour illustrer que l'immigrant vient ici avant tout pour améliorer son sort. pour améliorer sa vie, ses conditions de vie. Et pour ma mère, mais c'était quand elle a décidé de venir ici. Elle n'est pas venue ici pour sauver le fait français en Amérique du Nord.
Non.
Elle n'est pas venue ici pour découvrir Plume la Traverse. Elle est venue ici parce qu'elle avait calculé qu'en travaillant ici comme esthéticienne, elle allait pouvoir
s'offrir
à elle et à sa petite
famille,
à ma grande sœur et moi, une vie meilleure.
Je m'aperçois, à cause Verbocci, d'une part, je voudrais épeler votre nom parce que pour les gens, vous savez, qui sont non-voyants et qui nous écoutent, ça me semble important.
Je le fais tous les jours de ma vie à des voyants et des non-voyants.
Allez-y donc, Akos.
Akos, ça s'écrit A-K-O-S, qui fait en sorte que je me fais appeler régulièrement Akos.
Bon.
Là-dessus, les gens, je les corrige. Pour le nom de famille, je dis que c'est prononcé à son libre. Moi, je dis Verbocci, et c'est V-E-R-B-O-C-Z-Y. V-E-R-B-O-C-Z-Y.
Et vous rendez-vous compte que je n'ai même pas encore nommé le titre de votre livre, parce que c'est quand même pour ça que vous êtes là. Je m'aperçois que je ne l'ai pas encore fait. C'est Rhapsodie québécoise, itinéraire d'un enfant de la loi 101. J'aime beaucoup ce titre parce que quand on va à Budapest, la musique n'est jamais très loin. Moi, j'ai été fascinée par les magasins de vieilles partitions. Et donc, on pense à la Rhapsodie hongroise aussi, de Liszt, évidemment. Alors, j'ai tout de suite compris le truc de la Rhapsodie québécoise.
Rhapsodie québécoise, Rhapsodie hongroise.
Voilà.
Une Rhapsodie, c'est aussi des... Il y a une signification, une définition un peu péjorative d'une histoire qu'on raconte pêle-mêle, un peu mélangée. Et une rhapsodie musicale aussi, c'est une œuvre qui puise dans des traditions folkloriques différentes qui finit par donner quelque chose d'harmonieux.
Oui.
Hein, les gens qui connaissent la Rhapsodie in Blue,
ou
la Rhapsodie hongroise, Bohemian Rhapsody pour les plus rock. Et j'ai un peu voulu, avec des histoires, des anecdotes différentes, finir par donner quelque chose de cohérent.
Le temps file et je voudrais vraiment qu'on insiste sur une chose maintenant pour les minutes qui nous... C'est que vous êtes, Akos Verbocci, quasiment plus Québécois que certains Québécois. C'est-à-dire que vous êtes devenu, d'ailleurs c'est pour ça que vous dites itinéraire d'un enfant de la loi 101, un fervent militant même de l'entité québécoise, au point même de dire qu'on se gourre peut-être complètement sur la façon dont on traite la multiculturalisation.
Oui.
Hein, vous me voyez venir, je vais aller dans les pages qui les concernent. Nous sommes en page 168 ici. Pardonnez-moi de faire des gros bruits de page, mais après tout, c'est une émission sur les livres, alors ce serait dommage qu'on n'entende pas ça. Mais on se leurre à croire qu'on en apprend davantage sur les Mexicains en se saoulant à la tequila ou sur les Suédois pendant qu'on se fait masser au spa scandinave du Vieux-Port. J'adore votre écriture en passant.
Vous êtes gentil.
Ah non, c'est vraiment sympathique. Pas plus qu'on apprendrait à connaître les Québécois en allant assister à une messe à l'oratoire Saint-Joseph, mais c'est déjà mieux. Vous pensez qu'on se trompe? Et puis, c'est double question. Et vous avez l'impression que on se dit d'ouvrir aux immigrants par utilité.
Et
que c'est un peu dommage, quoi.
C'est-à-dire que j'aime pas qu'on réduit les immigrants à leur folklore, d'une ouverture vers l'autre. Les gens, ils sont souvent de bonne intention, là.
Oui,
ça me dérange pas. Moi, ce que j'aime, c'est quand on fait fi des différences culturelles puis qu'on se retrouve dans une culture commune. Cela dit, moi, j'ai ma culture... vous avez dit que je suis plus Québécois qu'un Québécois? Non, moi, je suis un Québécois qui a des origines hongroises et je suis fortement marqué par mon éducation familiale et j'ai quand même fait une bonne partie de mon école primaire là-bas. Donc, je suis...
Oui.
Mon identité s'est forgée.
Oui, oui.
Mon identité québécoise s'est forgée par l'influence de ma jeunesse, évidemment.
Mais vous, vous êtes passionné pour la politique québécoise.
Et je suis passionné pour la... Ben, je me suis passionné pour la politique québécoise parce que je trouve qu'il y a quelque chose à préserver ici, qui est une culture originale, spécifique, en Amérique du Nord. Et je pense que c'est un objectif important et que l'immigration doit contribuer à préserver ce qui fait l'originalité du Québec, à son caractère français. Et aussi, on doit faire en sorte qu'il y ait une plus grande cohésion sociale avec l'immigration.
Oui, et ça, on en parle beaucoup. Il faut dire que lorsque l'émission sera diffusée, il y a un mois a eu lieu cette tragédie à Québec.
C'est ça.
Où là, tout d'un coup, on parle d'unicité, on parle d'inclusion, on parle... Vous réagissez comment à cela?
Mais ça me ramène à ce que je dis dans mon livre, que pour bien s'entendre entre gens de cultures différentes, il ne faut pas simplement se contenter de l'intégration économique des immigrants. On parle beaucoup de ça, il faut qu'il y ait un emploi, puis qu'ils respectent les lois, évidemment. Mais ça passe aussi par une intégration culturelle.
Ouais.
Et pour que les immigrants se sentent ici chez eux, il faut que les gens qui les accueillent soient fiers de leur culture. On n'invite pas les gens chez soi sans leur dire qui nous sommes. Et quand on est autour de la table, des gens de différentes cultures, il faut laisser les gens parler de leur insécurité légitime de part et d'autre. Et c'est en écoutant tout le monde, en discutant tout le monde, qu'on arrivera peut-être à un projet harmonieux et ce que j'appelle en conclusion une rhapsodie québécoise.
Oui. Parlons de projet harmonieux. Vous travaillez en ce moment sur un projet vous-même qui verra peut-être le jour. On ne sait pas parce qu'on sait comment c'est dans le merveilleux monde du cinéma, mais mettons que les choses sont bien parties pour l'instant. Un projet de film rhapsodie.
C'est un projet de longue haleine.
De longue haleine, on
sait. Une maison de production, Babel Film, qui a acheté les droits pour adapter le livre au cinéma. Alors, nous sommes en ce moment dans l'écriture de ce scénario parce que je suis le co-scénariste.
Parfait.
Donc, je suis en train d'adapter ce livre-là en images. Et j'espère qu'un jour, on pourrait voir ça à l'écran.
Moi aussi, je le souhaite. Et avant qu'on entende un plus grand extrait de votre livre, je vais en lire un plus grand extrait en seconde partie. C'est quelques mots. Si on veut faire coexister dans le respect anglo et franco au Québec, faudrait commencer par respirer par le nez, alléger l'atmosphère et reconnaître sans juger les insécurités légitimes de l'autre. En tout cas, dans l'état actuel des choses, on serait fou de ne pas essayer. C'était la fin, ça, d'un manuscrit, mais les gens pourront lire votre livre, Akos Verbotchi, Rhapsodie québécoise, itinéraire d'un enfant de la loi 101, et ils verront de quoi c'était la conclusion.
Et maintenant disponible en livre de poche aussi, en librairie, pour ceux qui ont la possibilité d'aller en librairie.
Merci de nous l'avoir signalé. Voilà, Akos Verbotchi, Rhapsodie québécoise, itinéraire d'un enfant de la loi 101. Des livres pleins les oreilles, la suite. Alors voilà, Akos Verbotchi est sorti du studio, mais j'ai encore son livre entre les mains et il est ouvert en page 182, d'où j'ai choisi de vous lire un extrait. Ça s'appelle « Tango de Montréal » et il cite d'abord un poème de Gérald Godin qui s'appelle « Tango de Montréal ». Et Gérald Godin écrivait ces mots. 7h30 du matin, métro de Montréal, c'est plein d'immigrants, ça se lève de bonne heure, ce monde-là. Le vieux cœur de la ville battrait-il donc encore grâce à eux? Et là, il écrit, Akos Verbotchi, je prends rarement le métro de Montréal à 7h30 du matin, mais je sais comme tout le monde, grâce au poème de Gérald Godin, gravé dans la brique derrière la station Mont-Royal, qu'à ce moment-ci, c'est plein d'immigrants. Je dirais qu'il y en a beaucoup plus aujourd'hui qu'à l'époque où le poème a été écrit, et pas seulement aux aurores. C'était la belle époque où un poète pouvait devenir ministre de l'immigration et tendre la main aux communautés culturelles en disant qu'il existe autant de façons d'être québécois. Godin voulait préserver les cultures des nouveaux arrivants tout en favorisant leur intégration dans un Québec nouveau, l'un enrichissant l'autre, et qui sait, peut-être même les rallier à la cause souverainiste. Un idéalisme sincère, avec une réelle ouverture, au résultat modeste. Il avait réussi à se faire beaucoup d'amis dans ces milieux, mais bien peu de convertis, avouait-il. Cela n'empêche pas certains passants de trouver douteuse la formulation du dit poème. Dire « plein d'immigrants » n'était pas acceptable aujourd'hui, pas plus pour un poète que pour un ministre. De nos jours, il est préférable de parler de « la beauté de la diversité dans les transports en commun ». Mais le mieux est de ne rien dire. Moi, je ne dis rien, mais je constate. Enfant, c'était surtout sur le segment ouest de la ligne orange que le nombre d'immigrants était frappant. Sur la ligne verte, ce qui me frappait, c'était comment les wagons se blanchissaient graduellement plus on allait vers l'est. Je faisais même des expéditions jusqu'au terminus pour observer le processus d'homogénéisation qui, au bout de la ligne, me donnait l'impression d'être arrivé à Drummondville. Je n'ai jamais perdu l'habitude de l'observation anthropologique des passagers du métro. Les ados de Westmount qui entrent à la station Vendôme paraissent encore plus riches quand des jeunes de leur âge montent à la station suivante, Place Saint-Henri. À Côte-Sainte-Catherine, les Philippins surpassent en nombre les Antillais. À la station suivante, Plamondon, c'est le contraire. Et à Namur, les Indiens l'emportent. À Atwater, je distingue assez aisément ceux qui vont à l'université McGill de ceux qui vont à Concordia. À Park, je démêle les quelques vieux Grecs des gens de l'Asie du Sud-Est, mais c'est tout. À Saint-Michel, les Noirs parlent en français, à Villa Maria, en anglais. À Place d'Armes, les vieilles Chinoises avec leurs sacs en plastique pleins ne lèvent pas les yeux et ne devinent pas les regards des touristes qui se retiennent de les immortaliser. Ils n'iront pas dans le même resto du quartier chinois. À la sortie du métro Henri Bourassa, les Haïtiens prennent l'autobus vers l'est, les Maghrébins vers l'ouest et les Québécois marchent jusque chez eux. À McGill, si ce n'était des affiches en français, on se croirait à Toronto, au métro Acadie, à Bombay et à la station Outremont. Avec ces cohortes qui reviennent du collège Stanislas, on se croirait dans le métro de Lyon. Les Français, eux, sont pourtant à la station Mont-Royal où la présence de commerces de proximité est finalement leur façon d'apprécier nos grands espaces. Quand j'étais adolescent, les plus belles filles entraient à Snowdon, en uniforme d'école privée. Plus tard, c'était à Berry-UQAM. Aujourd'hui, elles sont à Jarry et je les aide à monter les marches avec leurs poussettes. Je me crois indivisible, indécodable. De toute façon, ils sont tous, sans distinction d'origine, rivés sur leur téléphone portable, au point où j'oublie, caché derrière ma peau blanche et mon journal, que je suis moi-même un immigrant. Du moins jusqu'à ce qu'un couple entre dans le wagon avec son enfant. Et là, au moment où il balaie l'horizon des yeux, où les gens sautent de leur siège pour offrir leur place, et où je vois avec quelle rapidité l'enfant prend la place qu'il savait lui revenir de droit, s'installant sans dire merci ni même regarder le bon samaritain dans les yeux, je me sens étranger, convaincu que je resterai jusqu'à la et que je le resterai jusqu'à la fin de mes jours. Là, je me souviens de moi, enfant, dans le métro ou le tramway à Budapest, où je n'étais jamais confortablement assis sur mon siège, sachant qu'à chaque arrêt, pendant que le véhicule se remplissait, mon temps était compté. Qu'un adulte pas si âgé finirait par monter, par s'approcher de mon siège et par me gronder si je ne me levais pas, à moins que ma mère se soit déjà chargée de le faire. Chaque fois, je suis scandalisée par cette scène et j'aurais envie d'en faire toute une. Me lancer dans une envolée sur ces enfants rois nord-américains qu'on pense torturer en leur demandant de se tenir debout le temps de quelques arrêts. J'ai envie de chialer sur l'éducation des petits Québécois et commencer toutes mes phrases par « dans mon pays ». Devenir cet immigrant fatigant qui me tape souvent sur les nerfs car il ne comprend pas qu'autre pays, autre mœurs. Je ne laisse rien transparaître, je me calme et parfois, je reprends même espoir. À la radio, on parle de civisme. On attend le mois de février pour certains, en tout cas pour parmi nous, pour les festivités que Montréal nous offre. Et on a pensé ici à l'émission de Livre plein les oreilles qu'il serait bon de savoir ce qui va se passer du côté de l'UNEC. Surtout que l'UNEC, eh bien, c'est un établissement dont on ne parle pas assez, je trouve en tout cas, à notre émission de Livre plein les oreilles. Et je vais m'entretenir avec Réjeanne Bouger, nouvelle présidente, hein, si je ne m'abuse, présidente de l'UNEC. Bonjour Réjeanne Bouger.
Oui, bonjour Clotilde.
Alors écoutez,
mais
je vous en prie Réjeanne, allez, appelons-nous par nos prénoms et puis ça va nous aider comme ça. Alors, à l'UNEC, bon, d'abord je voudrais que vous rappeliez qu'est-ce qu'est l'UNEC? Peut-être à nos auditeurs, Réjeanne, s'il vous plaît.
Oui, ben, l'UNEC, c'est un syndicat professionnel qui est là pour défendre les droits des écrivains, les droits socio-économiques des écrivains et aussi faire la promotion de la littérature québécoise.
Bon.
En gros, en gros, c'est ça.
Bon, eh bien, écoutez, alors on fait pas le même métier, mais Dieu sait si nous, ici, la littérature québécoise, il en est très, très souvent question, puisque, comme vous le savez, cette émission est destinée à promouvoir, ben, j'aime pas le mot promouvoir, à partager avec les auditeurs qui nécessitent des besoins du SQLA, du Service québécois du livre adapté. Voilà, donc on parle de ces livres qui existent en audio adapté, qui sont enregistrés. Oui. Via plusieurs organismes, dont Vues et Voix. Et je me disais que ce serait une bonne idée de partager avec eux l'événement La Nuit Blanche à la Maison des Écrivains. Je voudrais que vous nous en parliez parce que ça revient depuis déjà plusieurs années dans le cadre de Montréal en Lumière. Alors, ça se passe où? Parce que où est la Maison des Écrivains? Magnifique maison.
Oui, la Maison des Écrivains est située rue Laval, entre la rue Sherbrooke et l'avenue des Pins. Est-ce que c'est bien 3492? Là, vous me prenez un peu par surprise pour ce qui est de l'adresse physique, mais bon. En fait, on est juste en face du carré Saint-Louis.
Oui.
Je pense que c'est un point de repère qui est assez facile pour les gens. Mm-hmm. Donc, et effectivement, il va y avoir une partie de la Nuit Blanche cette année. Ça va vraiment se passer dans cette belle vieille maison victorienne. C'est sous le thème de la nuit porte conseil que les activités vont se dérouler cette année. Mm-hmm. C'est-à-dire que ce titre-là pour dire qu'on a invité des essayistes à venir présenter leur œuvre, parler aux gens. Et donc, parce que les essayistes, évidemment, écrivent. Mais ce sont des essayistes, vous allez voir, là, je vais vous les nommer, qui ratissent toutes sortes de champs. Je pense qu'il va y en avoir pour tous les goûts. En fait, il y a deux blocs de présentation. Il y a un premier bloc de 20h à 22h30
oui.
Et il y a un second bloc qui est de 22h30 à 1h du matin.
Du matin, d'accord.
Pour les plus nocturnes d'entre vous. Alors, il va y avoir, bon, par exemple, dans le premier bloc, un écrivain comme Jean-Pierre Urbain, qui est un astronome, un scientifique qui a écrit un livre qui s'appelle « En route vers les étoiles, construis ton propre vaisseau spatial ». Mais ça, c'est un livre destiné pour les enfants, mais il va adapter son essai à une clientèle évidemment un peu plus âgée. Il y a aussi, les gens connaissent peut-être, le philosophe Georges Leroux, qui a écrit récemment « Différences des libertés, enjeux actuels de l'éducation au pluralisme ». Et il y aura pour compléter ce premier bloc Isabelle Boisclair, qui est une universitaire, une essayiste, une féministe, qui a écrit « Mine de rien ». Chroniques insolentes. Alors, et il faut dire que chacun des écrivains, bon, bien sûr, va présenter son travail. Oui, c'est ça, ses livres, mais par la suite, ils vont jouer aussi un rôle d'écrivain, ce qu'on appelle un écrivain public.
Ah oui?
Oui, c'est ça. Donc, ils vont monter au troisième étage, parce que la maison est située sur trois étages, pour faire, bon, un écrivain public pour les gens qui ne sauraient pas. On appelle ça aussi parfois un écrivain d'honneur, c'est-à-dire que D-O-N-N-E-U-R, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui met sa plume au service des autres. Pour différentes causes, des causes utilitaires, mais aussi des causes plus poétiques parfois. Ça dépend des besoins. Alors, ça, c'est pour le premier bloc. Dans le deuxième bloc, on va avoir Robert Lévesque, le journaliste, ancien critique.
En théâtre.
Oui, voilà, qui a écrit « Vie livresque ». On aura aussi Élise Desauniers, qui, est une des porte-étendards du mouvement vegan, donc, et qui va venir nous parler de son livre « Défi vegan en 21 jours ». Et également Serge Mongeau, vous vous souvenez peut-être de Serge Mongeau et de la simplicité volontaire, il y a plusieurs années déjà, là, mais son plus récent ouvrage, c'est « S'indigner, oui, mais agir ». Alors ça va être dans le troisième bloc. Donc, ça va être des activités, je dirais, sans trop d'interruptions, là, qui vont se dérouler de 20h à 1h du matin avec, comme je vous le dis, une activité d'écrivain public
Fantastique.
Entre les deux.
Et je précise qu'on y sert le thé, les petits gâteaux, les petits brownies et tout ça.
Absolument, parce qu'il peut faire froid.
Ben oui, c'est ça, on ne sait pas.
Oui, on va avoir tout sur place pour se réchauffer. Le lieu, déjà, est un lieu...
Magique.
Convivial et qui dégage beaucoup de chaleur, mais au-delà de ça, oui, il va y avoir ce que vous dites.
Bon.
Et il faut dire aussi que la thématique cette année, c'est la thématique est relié à 1967, l'année de l'Expo.
Oui.
Donc, on va aussi présenter certains écrivains qui ont publié en 1967. J'étais surprise d'apprendre qu'il n'y en a eu que 16 écrivains, c'est-à-dire en québécois, en 1967, oui. Parmi lesquels Régent Ducharme,
oui.
Marie-Claire Blais. Donc, il va y avoir des présentations aussi des écrivains qui ont publié il y a 50 ans, hein, si je ne me
trompe pas. Oui, exactement. Exactement.
Alors, voilà. Donc,
et avec des lectures, oui. Régent?
Je crois, non, pour ce qui est de ces écrivains-là, je pense que les écrivains qui sont invités dans les deux blocs là, dont je vous ai parlé, mm-hmm. vont faire quelques références. Comme je sais que Robert Lévesque a croisé à l'époque Régent Ducharme quand il travaillait.
Oui.
Je ne sais plus à quel journal, est-ce que c'était La Patrie ou le petit journal, mais Régent Ducharme était à l'époque correcteur d'épreuves, donc il l'a quand même... côtoyer. Bon, alors, chacun va faire des références à ces écrivains-là. Il y a mm-hmm. Régent Ducharme, Jacques Godbout, j'ai parlé de Marie-Claire Blais, mais bon, oui. ils sont 16 au total. Donc, c'est un peu comme ça que le maillage va se faire.
Eh bien, écoutez, passionnant. Rappelez-nous la nuit qu'aura lieu, cette nuit blanche à la Maison des écrivains. Ce sera la nuit du...
Je pense bien que c'est... Est-ce que c'est le 4 mars? J'ai vérifié tantôt sur le site Internet, mais la nuit blanche, si je ne m'abuse, c'est le 4 mars. Et
voilà.
Les activités commencent à 20h.
D'accord.
Donc, rue Laval, avenue Laval,
oui,
à Montréal.
Oui, en face du Carré Saint-Louis.
Hein, voilà.
C'est une maison absolument magique. Écoutez, un jour, je souhaiterais, Régent Bouger, oui. qu'on puisse peut-être s'entretenir en direct, en studio, et parce que vous faites beaucoup de choses à la Maison des écrivains. Il y a des ateliers d'écriture, il y a vraiment toutes sortes de choses qui se font, et je trouve ça absolument passionnant, et peut-être qu'on ne le sait pas assez. Alors, donc, on réitérera, d'accord?
Parfait, hein? Avec grand plaisir.
D'accord, Régent. Alors, Régent Bouger, nouvellement présidente de l'UNEC, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions, et je vais vous souhaiter, une bonne nuit et plein de beaux jours à l'UNEC pour soutenir tous ces auteurs que nous aimons.
Merci beaucoup, c'est avec grand plaisir. Au revoir.
Au revoir, bonne fin de journée. La bande-annonce maintenant pour la semaine prochaine, je vous avouerai qu'on s'est fait une petite frayeur. Vous savez, c'est pas toujours facile de faire du booking, comme on appelle ça en bon français. C'est que parfois, il y a des gens qui ont des impondérables ou alors qui notent mal des choses dans leur agenda. Et pouf, on se retrouve avec un petit souci pour la semaine d'après. Mais là, pas de souci pour la semaine prochaine parce que Catherine Lalonde, journaliste, chroniqueuse, essayiste, poète aussi, à 16 heures, que vous connaissez bien si vous lisez Le Devoir, eh bien, Catherine Lalonde a accepté très gentiment d'être notre invitée et elle va nous parler d'un livre. Et là, accrochez-vous bien à la table parce que vous allez vous demander ce qui m'est arrivé. Vous savez comment j'aime souvent... les livres dont il est question ici, eh bien là, elle va nous parler d'un livre qui n'a pas réussi à m'accrocher. Et je suis bien une des rares, parce que je n'entends que des bonnes choses sur ce livre-là, c'est L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Alors, je vais compter sur Madame Catherine Lalonde pour me faire reprendre là où j'ai quitté ce livre, c'est-à-dire à peu près à la moitié, et je compte sur elle pour me prouver que j'ai eu vraiment tort de lâcher L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Nous avons eu la chance, parce que c'est réellement une chance quand on tombe sur des gens aussi passionnés de littérature. Donc, nous avons eu la chance de faire sa rencontre il y a 2 semaines. J'accueille au téléphone également Yannick Olassa. Bonjour Yannick.
Bonjour Clotilde.
Oui, c'est vrai que vraiment ça a été un gros coup de cœur ici dans l'équipe, mais aussi parmi tous nos auditeurs. On en veut encore.
Moi aussi.
Alors vous aussi en plus. Alors Yannick, avec grand bonheur, je vous laisse le soin de nous présenter le livre que vous avez choisi aujourd'hui pour cette chronique.
Alors, aujourd'hui, j'ai choisi Una et Salinger de Frédéric Becbédé. Je sais que vous avez parlé déjà de plusieurs romans de Frédéric Becbédé. Mm-hmm. Moi, je suis une inconditionnelle.
C'est vrai.
Oui, absolument. Mais faut dire que Bec BD, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime.
Vous aimez?
Même si je ne suis pas d'accord nécessairement avec toutes ces perceptions des choses, mais j'aime beaucoup Frédéric Bec BD. Et quand j'ai su qu'il écrivait ce roman, parce que c'est bien un roman.
Un roman, c'est ça.
Sur l'histoire d'amour entre l'auteur J.D. Salinger et Una O'Neill, ben alors je me suis jetée dessus. C'est en fait un roman. On se trouve là dans les Amériques des années 40. C'est à cette époque que J.D. Salinger rencontre Una O'Neill au Stark Club. Et lui, il a 22 ans. Elle a 15 ans. Donc, il y a déjà une différence d'âge. Et il devient absolument omnibulé par cette femme-là. Mm-hmm. En fait, c'est sa seule passion à part l'écriture. Bon, à cette époque-là, il n'est pas encore l'écrivain qu'on connaît qui a écrit L'attrape-cœur. Peine à publier ses nouvelles. Il travaille comme un forcené. Et là, Una arrive dans sa vie et ça va venir teinter beaucoup son écriture. En tout cas, c'est ce que moi, je me suis rendu compte là, à la lecture de ce roman-là. C'est une belle jeune fille, mais elle est troublée. Salinger est lui aussi un peu sombre et anxieux. Ils ont une idylle qui dure quelques mois. C'est des moments très intenses au bout desquels Salinger s'est engagé à partir pour la guerre. En même temps, pour la fuir et la reconquérir, parce qu'elle aime un homme fort, un homme solide, et c'est un peu sa façon de lui montrer qu'il est adéquat pour elle. Mais au loin, son obsession pour Una devient vraiment plus puissante et il lui écrit des lettres dans lequel on voit un homme qui, en fait un garçon plus qu'un homme, qui est désespérément entiché, plutôt lourd, harcelant et pitoyable.
Très amoureux, quoi.
Très, très, très amoureux. Par contre, malheureusement, Una, elle ne l'attendra pas. Et elle va se marier avec Charlie Chaplin.
Voilà.
Et... un autre homme qui a la réputation de préférer les jeunes femmes. Ce qu'il a en commun avec Salinger, mais aussi avec Frédéric Bec BD lui-même.
Oui, c'est ça. Parce qu'il se raconte beaucoup là-dedans, hein, apparemment, Bec BD.
Énormément.
Ah, c'est ça.
Énormément. Moi, j'ai en fait, à la lecture de ce roman, j'en ai appris beaucoup sur Salinger. J'ai compris pourquoi son écriture est si noire. Mais j'en ai aussi appris énormément sur Frédéric Bec BD, sur sa vision des relations, avec laquelle je suis pas vraiment en accord, mais je trouve ça intéressant qu'il la partage avec nous, qu'il l'assume. Mais c'est ça. Et Bec BD a rencontré lui-même, d'ailleurs, il en parle, Una O'Neill quand il avait 15 ans. Il est devenu lui aussi un peu obsédé. D'ailleurs, sa dernière fille, elle a quoi, environ un an, Bec BD a prénommé sa fille Una.
En effet. Mais c'est vrai que c'était une très belle femme. Et en tout cas, là, quand on voit tout, parce qu'ils ont eu quand même une trolée d'enfants, comme on dit, ensemble. Et chez les filles, ce sont toutes des très belle femme, mais en tout cas, bon, ça, je referme la parenthèse, mais on peut comprendre en quelque part qu'en tout cas physiquement et même intellectuellement, parce que c'était pas une imbécile, pour vivre une idylle avec monsieur Salinger, il fallait la coter quand même.
Ah oui, tout à fait. Et puis elle est entourée d'auteurs, dont un de ses meilleurs amis, qui était Truman Capote, qui a écrit notamment Petit déjeuner chez Tiffany, dont est issu le film. C'est écrit à la Bec BD, c'est fluide et rempli de ses théories sur l'amour. Bec BD, comme on disait tantôt, il se dévoile, il est très romantique dans le fond. Même s'il s'en défend et se cache derrière son cynisme, là, il est quand même très, très romantique. Et d'ailleurs, petite anecdote, petite parenthèse, quand il a lu Frédéric Bec BD ma chronique sur son livre, Et il avait répondu, Madame, vous m'avez percé à jour.
C'est vrai? Oh, oui, écoutez, oui. Il faudrait à un moment donné qu'on essaie de l'avoir à l'émission par téléphone et on pourrait s'organiser pour que vous soyez là, ce serait sympathique.
Ben oui, ce serait sympathique, en effet.
Pourquoi pas? Pourquoi pas?
En tout cas, oui, c'est un auteur que j'aime.
Bon.
Et, bon, il a une certaine vision de l'amour. En terminant, là, pour les admirateurs de Beck Bédé, vous serez heureux parce que le livre est truffé des phrases typiques comme « L'amour, c'est faire semblant de s'en foutre alors qu'on ne s'en fout pas. C'est se chercher sans se trouver. Ce petit jeu, s'il est bien pratiqué, peut t'occuper toute une vie. »
Ah oui, excellent. Excellent. Moi, j'avais un petit extrait ici et je suis contente que vous l'ayez évoqué. C'est le retour de Salinger lorsqu'il est donc allé à la guerre et lorsqu'il en revient. Si vous me le permettez, c'est très très bref. Donc, extrait de Una et Salinger de Frédéric Beck Bédé. De retour à New York en 1946, Jerry fut effondré de revoir le gros portier de son immeuble promener son chien tous les jours, comme il le faisait avant la guerre. Ainsi, les gens avaient continué de manger leur breakfast, de faire leurs courses chez l'épicier du coin et de promener leur toutou autour du pâté de maison. Le décalage, voilà la cause principale de la dépression du combattant. Je trouve ça intéressant. La vie a suivi son cours. C'est pour cette vie qu'ils se sont battus. Si Salinger a quitté New York, c'est parce qu'on ne le laissait plus rentrer nulle part. Adolf Hitler a eu la même amertume de vétéran traumatisé à partir de 1919. Démobilisé et défait, frustré et désœuvré, vaincu et loser, Jerry s'est enfui pour ne pas devenir dictateur. Ouais, c'est du Beck Bédé à son meilleur, hein?
Tout à fait.
Effectivement. Alors, Yannick Olassa, merci beaucoup. Vous avez une façon tout à vous de nous parler des livres qui nous donnent tous, absolument tous, envie de les découvrir. Alors, on va vous retrouver avec grand plaisir dans deux semaines.
Oui, bien sûr, ce sera un plaisir pour moi.
D'accord. Alors, passez une belle fin de journée d'ici là.
Merci.
Au revoir.
Tout le monde aussi, au revoir.
Au revoir. Les titres en rafale maintenant. Agatha Christie, le chapitre disparu de Brigitte Kernel, K-E-R-N-E-L. Voilà, le livre est fini. J'ai posé le point final. Le titre, une autobiographie. Je ne me sens pas très à l'aise. Mon éditeur va s'en rendre compte. Des pages manquent. Ma disparition à l'hiver 1926. Pourtant, j'ai bien écrit ce chapitre. Des pages et des pages. Presque un livre entier. Mon secret, ma vie privée. Une semaine et demie qui n'appartient qu'à moi. C'est une histoire vraie qu'on vous propose là, un mystère jamais totalement élucidé, une zone d'ombre qui demeure dans la vie d'Agatha Christie. Pourquoi et comment la reine du crime s'est-elle volatilisée dans la nature durant l'hiver 1926? Qu'a-t-elle fait pendant ces 11 journées? Pourquoi toute la presse a-t-elle cru qu'elle avait été kidnappée? Dans ce roman passionnant, Brigitte Kernel se glisse dans la peau d'Agatha Christie pour reconstituer cette étrange disparition, une histoire d'amour, de vengeance et de trahison. Le club des miracles relatifs de Nancy Houston. Dans un pays situé quelque part au nord d'un continent puissant, naît un enfant très sensible, surdoué, inquiet. Et quand son père quitte la maison, n'ayant plus en tant que pêcheur le droit d'exercer son métier sur un océan surexploité, le jeune variant perd pied. Quelque temps plus tard, sans plus aucune nouvelle, il part à la recherche de ce père sacrifié qui est embauché dans cet autre monde où le sol est sondé, retourné, bouleversé, le sable violenté comme les êtres. Un roman chargé et foisonnant comme son esprit brillant et bouillonnant, écrivait-on dans la presse le 25 mai 2016, et dans le Figaro, un thriller écologique et psychologique sur l'exploitation des sables bitumineux. Voilà ce que vous propose Nancy Houston avec le club des miracles relatifs. Parlons poésie avec Jean-Paul Daou, que nous allons d'ailleurs recevoir au début du mois d'avril. Libellule, couleuvre et autres merveilles, de Venise à Istanbul ou sur les rives du lac Rocher à Sainte-Mélanie, voici de petits tableaux inspirés d'anecdotes et épinglés en mots d'une douce ironie, car avec un humour parfois féroce, les animaux peuvent devenir épithètes de miroir aux humains qui oublient trop souvent leur humanité animale. Car si les animaux pourraient se passer facilement de nous, pourrions-nous, nous passer d'eux? Pour son 65e anniversaire et ses 35 ans de publication comprenant autant de titres, il nous offre ce cadeau Jean-Paul Daou, Libellule, Couleuvre et autres merveilles. Le polar du jour, les adeptes d'Ingar Jongsrud, J-O-H-N-S-R-U-D. Pour le commissaire Frédéric Beyer, cette affaire s'annonçait comme une simple enquête de routine dans la vie monotone et procédurière de sa vie de flic. La disparition d'une jeune femme et de son fils, membres tous deux d'un groupe de fondamentalistes chrétiens baptisés « La Lumière de Dieu ». Ça s'appelle « Les adeptes d'Ingar Jongsrud, J-O-H-N-S-R-U-D ». Voilà, ainsi se referme cette nouvelle édition des livres plein les oreilles que j'ai pris encore une fois beaucoup de plaisir à animer pour vous. J'espère que vous en avez à les écouter, toutes ces émissions que Martin Forgue et moi-même prenons du temps à vous préparer. Alors merci à mes invités, Louise Boulanger, Akos Verbocci, Réjeanne Bouger et Yannick Olassa. C'était Clotilde Seille qui vous souhaite une belle semaine de lecture et qui vous dit à la semaine prochaine.